Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et aujourd'hui, dans l'Afrique en culture, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Leïla Kilani, la femme, la réalisatrice, la scénariste derrière Indivision, son nouveau film qui fait grand bruit. La cinéaste franco-marocaine explore plusieurs thèmes complexes de notre société contemporaine, comme la crise écologique ou encore la question de la propriété, un film qui ne laisse pas indifférent et que l'on se fera un plaisir que de décrypter avec Leïla Kilani. Sinon, nous parlerons également musique avec Stoneboy, le nouveau visage de la musique qui nous vient du Ghana et qui fait son petit bonhomme de chemin. Il joue dans la cour des grands à présent et il nous régale avec son dernier single très prometteur qu'on écoutera ensemble. Et nous parlerons également cinéma, encore une fois, avec le documentaire Coconut Head qui sort ce mercredi. Coconut Head Generation, un film nigérian qui, je vous le rappelle, avait obtenu le Grand Prix du cinéma du Réel en 2023. Le documentaire d'Alain Kassanda donne la parole à des étudiants engagés contre les injustices ou encore les violences policières. On en parlera dans quelques instants. Et comme promis tout à l'heure, eh bien nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui la réalisatrice, scénariste, productrice franco-marocaine Leïla Kilani, qui a sorti dernièrement Indivision, un film que l'on attendait énormément, une sorte de conte contemporain où elle redonne vie à la figure de Scheherazade à travers les traits, le visage d'une adolescente qui documente tout son quotidien à travers les réseaux sociaux, à travers Indivision. Leïla Kilani explore des thèmes complexes de notre époque comme la crise écologique, la lutte des classes ou encore la question de la propriété et de l'héritage. Un conte simple donc que propose la réalisatrice marocaine, une histoire de famille, d'héritage en plein milieu de la forêt tangéroise. On écoute tout de suite Leïla Kilani.
J'avais envie de travailler sur une variation des mille et une nuits. Et j'ai cherché une correspondance aujourd'hui à qui pouvait être Scheherazade. Et donc, ça m'a paru assez évident que si Scheherazade devait être réincarnée, elle le serait à travers la figure d'une influenceuse, une jeune influenceuse qui joue sa vie sur les réseaux sociaux, comme Scheherazade jouait sa vie de narratrice toutes les nuits en racontant une histoire. Ça, c'est pour la forme. Donc, je voulais raconter un conte à travers une thématique éco-poétique qui est celle qu'on vit à Tanger, mais qu'on vit dans le monde entier, mais qui a une espèce de vraiment puissance et de particularité dans le nord du Maroc où la question écologique, elle n'est pas du tout rhétorique. On la vit, on voit des incendies, on voit les oiseaux qui sont complètement déboussolés. Et donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'une famille extrêmement simple, d'une maison et d'un territoire. En indivision avec tous les vivants, c'est-à-dire les humains, les végétaux et puis les oiseaux. Voilà, un territoire en partage, un territoire qui serait à inventer pour demain. Donc c'est une histoire qui est racontée à hauteur de tous les vivants, des hommes et des oiseaux, avec le regard de cette jeune Scheherazade 2.0 qui raconte mille et une histoires à l'intérieur d'un même récit cinématographique.
Et à travers également Indivision, il y a question de l'héritage, de la filiation, mais aussi du rapport qu'on a à la terre-mère, à Gaïa. Et c'est vrai que c'est omniprésent. Il y a quelque chose comme ça qui revient, comme si on dialoguait éternellement avec, comme vous voulez dire, le vivant qui nous entoure, que ce soit la terre, que ce soit les oiseaux, les végétaux. Est-ce que c'était voulu ou ça tombait en fait sous le sens tout simplement?
Non, c'était volontaire. Les deux, je dirais que vous répondez, vous posez les questions les plus pertinentes. À la fois, ça tombait sous le sens et je devais m'en emparer. C'est-à-dire la question à qui appartient la terre. Je ne crois pas que ça soit une question juste militante ou une question qui serait réservée à des à un cercle particulier. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était pas de faire un manifeste ou un pacte, mais de faire une proposition forte cinématographique qui s'empare de toutes ces questions, qui s'empare de la question de la propriété, de celle de l'héritage et de celle de la possible invention du monde de demain, et qui le fasse à l'intérieur de d'une forme fourmillante qui est celle de notre monde contemporain, avec justement comment dire, une héroïne qui ne serait pas juste éco-anxieuse, qui serait une forme de furie et de nouvelle sorcière, et c'est ce que j'ai voulu raconter.
Et personnellement, moi, je suis une grande admiratrice de votre travail. Je me rappelle sur la planche qui m'avait totalement bouleversée, je pense en 2010 et 2011, cette manière de filmer très dermique, où on est collé au personnage, cette caméra qui bouge, qui respire avec les protagonistes, qui les suit au plus près. Et cette fois-ci, voilà, on est dans une approche naturaliste. Voilà, il y a cette veine un peu en filigrane documentaire. Est-ce que vous aviez décidé de filmer comme ça dès le début, ou c'était pendant le tournage? Ça m'a beaucoup intriguée, cette manière de filmer.
Alors en fait, il y a deux récits. Il y a un récit classique avec des plans très posés, des plans d'ensemble qui porte le récit linéaire. Et puis, il y a le point de vue d'Ina, qui est celui à travers les réseaux sociaux. Et c'est un point de vue fourmillant, qui est très instable, qui vient perforer le regard. Alors ça, c'était ce côté entrechoqué, ce côté musical, mais au sens vraiment très brutal de la musique, un peu comme une partition jazz ou comme une Hadala Gnawa. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait deux récits qui s'entrelacent et qui perforent une forme de confort linéaire. On a filmé des plans d'ensemble très beaux, très composés, très stables. Et il y a ce regard de Nina qui est celui de la caméra iPhone, qui brouille toutes les perspectives, où il n'y a plus décor, où tout devient très spectral, où le rythme est absolument infernal. Et c'est cette confrontation qui m'intéressait, en fait.
Et c'est vrai qu'elle est prenante, cette confrontation déstabilisante. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme d'Indivision. Et comme on le disait au tout début, beaucoup de thématiques traitées, des questionnements, on ne peut plus d'actualité. Mais vous, en tant que réalisatrice, vous êtes voilà la maman de ce film. C'était quoi votre désir en tout premier? C'était quoi votre volonté en faisant ce film? Parce qu'on a toujours un désir au début, puis après il y en a d'autres qui naissent, mais l'original, c'était lequel?
C'était vraiment de me dire, si Shéhrazade revenait aujourd'hui, elle raconterait quelle histoire et elle jouerait sa vie sur quelle arène. Et donc de trouver une variation aujourd'hui des mille et une nuits qui viendrait raconter notre monde, en fait.
Donc il y a Indivision, votre tout dernier film qu'on a attendu longtemps, il est enfin là, et voilà, un superbe film à découvrir d'urgence, vraiment un film qui moi personnellement m'a beaucoup plu, et je sais que en général les artistes, les réalisateurs, voilà, n'aiment pas trop en parler. Et est-ce qu'il y a déjà un film qui est en train de peut-être de voir le jour quelque part chez vous?
Oui, il y en a un, c'est effectivement, il y a une forme de superstition, parce que, en tout cas, le cinéma étant un combat où, qui rend parfois les projets très instables et volatiles, mais voilà, c'est une comédie musicale.
Et on aura hâte de voir.
J'espère, en tout cas.
En tout cas, je pense qu'on sera pas déçus du résultat, et bon vent, bon courage. Merci beaucoup, Leïla Kilani, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci.
Merci infiniment. Merci, Média.
Merci, bonne journée.
Et après avoir parlé cinéma avec Leïla Kilani, notre invitée du jour, tout de suite, je vous propose un petit Rema, Calm Down. Et on se retrouve juste après pour encore une fois parler cinéma avec Coconut Hand Generation, un documentaire de Alain Cassandra qui fait beaucoup de bruit, qui est également sorti cette semaine en salle. À tout de suite.
Baby, God. in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 no.
Rema, Calm Down, un morceau dont on ne se lasse pas, signé par le Nigérian Rema, qui ne cesse de monter. Restez avec nous sur Média. Tout de suite, nous parlons cinéma avec un film documentaire Coconut Head Generation, signé Alain Cassanda. Un film donc, qui sort en salle cette semaine et qui fait beaucoup de bruit, puisqu'avec ce documentaire, le réalisateur franco-congolais Alain Cassanda, eh bien, a remporté, je le rappelle, le Grand Prix du prestigieux Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou Paris. Et son documentaire raconte eh bien, comment un ciné-club à l'université nigérienne d'Ibadan se transforme en lieu de rassemblement nourrissant eh bien, les rêves de liberté d'étudiants dans la rue. Le titre vient tout simplement d'une expression nigériane qui désigne quelqu'un qui a la tête creuse et qui est borné, à clin d'œil à cette génération de jeunes Nigérians qui s'est approprié cette expression pour revendiquer leur côté têtu qu'ils mettent au service d'autrui et de la société pour un avenir meilleur. Je rappelle que le film est sorti mercredi dernier au cinéma. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Coconut Head Generation, signé Alain Cassanda. Alors nous sommes dans un ciné-club à l'université de d'Ibadan, la plus ancienne du Nigeria, et le réalisateur Alain Cassanda montre comment cette salle de cinéma se transforme peu à peu en lieu de rassemblement et de discussion entre jeunes férus de liberté d'une société meilleure. Le film montre la force du cinéma. Ici, nous sommes dans un ciné-club, des étudiants ici peuvent voir des films qui parlent de ce que cela leur fait en tant que spectateurs, mais aussi en tant que citoyens avant tout. Chez Alain Cassandas, c'est l'aspect citoyen qui est important et qui prime. Le premier enjeu du film est de montrer les réalités du Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain et première puissance économique également du continent. Le film permet en tout cas de donner la parole à des jeunes, à ces jeunes véritables protagonistes de Coconut Head Generation. Il n'y a pas une voix extérieure qui va parler d'eux, ce sont eux-mêmes qui se commentent et qui prennent la parole et qui s'expriment. Il y a une sorte de réappropriation de la parole, de la narration, de la réalité du présent et du futur. Ici, on parle de la manière dont on peut construire ensemble une société nouvelle. Ce film est, selon Alain Cassandas, une construction entre lui en tant que cinéaste et Toby, protagoniste, mais aussi cinéaste dont les images nourrissent le film. Ce qui est important dans sa démarche, c'est qu'il y a une notion d'égalité entre filmeur et filmé, Coconut Head Generation, donc de Alain Cassandas, Voir d'urgence, et qui est notamment sorti en salle mercredi dernier. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, place aux nouveautés musicales avec notamment Stone Boy, la nouvelle icône de la musique africaine depuis maintenant une décennie. Le chanteur ghanéen Stone Boy n'a pas cessé de nous étonner. Dernièrement, il était de retour avec un cinquième album studio intitulé Fifth Dimension, pour lequel il a fait appel notamment à des pointures comme Davido, Angelique Kidjo ou encore Shaggy, et il nous a régalé avec cette réinterprétation de l'afrobeat qui doit selon lui beaucoup à la musique ghanéenne, alors que le Nigeria et l'Afrique du Sud continuent de se hisser au sommet des classements internationaux. Et bien le Ghana, à travers Stone Boy, n'est pas en reste, puisque depuis 15 ans, le chanteur Stone Boy se fraye son petit bonhomme de chemin et s'impose en local comme une véritable pointure, mais également à l'international grâce à son mélange de dancehall et de highlife. Et il nous régale. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de Jelly Jelly et on se retrouve juste après. Jere Jere, donc extrait de son tout dernier album Fifth Dimension de Stone Boy, qui nous régale avec cette réinterprétation afrobeat inspirée directement de la musique ghanéenne. L'afropop donc au premier rang pour Stone Boy, qui tout simplement nous régale avec ce cinquième album totalement inspiré et ancré profondément dans la musique ghanéenne, avec ce je ne sais quoi d'afrobeat, de hip-hop et de R&B. Et comme il le dit, je m'efforce de durer, je pense avoir le bon état d'esprit pour, car je suis conscient de m'inscrire dans un héritage. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. D'ailleurs, je vous propose de poursuivre avec la suite de Jelly Jelly Stone Boy. Question de clôturer en beauté. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle que l'Afrique en culture s'est retrouvée toujours en avant-première sur Média Podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sans faute. D'ici là, portez-vous bien.